Vous écoutez le podcast Mac Québec, le podcast qui n'osera pas ses frais de scolarité.
Je disais, vous écoutez le podcast Mac Québec et avec moi cette semaine pour l'animation, j'ai Jean-François Roy, comme toujours, qui est avec nous. Ça va bien, Jean-François?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, pas mal. Passé une dure semaine, comme tout le monde?
Oui.
Oui, ça a été tough, hein?
Oui, ça va être tough.
Ça va être tough.
Demain, c'est ma dernière et puis je tombe en vacances. Fait que...
Oui, il y a une phrase que j'aime bien qui est tirée, je ne sais pas si vous écoutez Game of Thrones, qui est une excellente série qui passe, si je ne me trompe pas, à HBO. Et il y a une phrase qui revient qui est très, très grave dans la série, qui est « Winter is coming ». Et « Winter », en fait, c'est comme ceux du Nord qui s'en viennent. Puis en fait, moi, je l'ai dénaturé. Je pourrais dire « Summer is coming » parce que ça va être le feu. Vincent qui est avec nous aussi, producer Vincent Miller.
Oui.
Qui est avec nous. Ça va bien, Vincent?
Ça va bien, toi?
Oui, pas mal. Toujours en arrière-plan, tu vas regarder comment les choses fonctionnent et tu vas appeler Vidéotron en cas de manque de bande passante.
Exactement.
Excellent. Donc, on va essayer de clencher ça. Donc, on a un concours en ce moment, d'ailleurs, qui va très bien. On a plus de 50 participants à ce jour et on est quand même le 17 mai. Alors, c'est le concours Kensington Folio pour gagner en fait un Kensington Folio qui est une housse pour le iPad avec un clavier intégré qui est offert par Mario Gaucher, qui est un collaborateur sur les forums et Mac Québec Entraide. Donc, on le remercie. Pour participer au concours, c'est facile. Vous vous rendez à l'adresse qu'on va écrire sous le podcast ou qui est dans les notes du podcast si vous êtes en train de l'écouter en différé sur votre appareil iOS ou sur votre ordinateur. Et là-bas, en fait, il y a un formulaire et vous nous donnez le nom des CEO, de tous les CEO qu'il y a eu dans l'histoire de Apple. Il y a aussi une petite question d'ordre mathématique et la réponse, en fait, vous allez voir, elle est très geek, elle est même convenue.
Oui, c'est ça.
Et voilà. Donc, pour gagner le concours le concours Mac Québec, il y a beaucoup de gens qui nous demandent quand est-ce qu'on le fait tirer. Bien, c'est le premier podcast qu'on va faire au mois de juin. On va faire le tirage-là et on va lancer le concours du mois de juin, qui va être un Gorilla Mobile Ori pour un iPad, iPad 2 ou iPad nouveau. Donc, ça va être le concours du mois de juin. Sinon, messieurs, est-ce que vous avez préparé des coups d'os et des coups de 12?
Non, je n'ai pas vraiment, là, aujourd'hui.
Vincent, qui veut jamais s'attirer les foudres en faisant des coups de 12?
Ben, j'ai même pas de coups de 12 cette semaine.
OK, ni de coups d'os?
Non plus. Ben, que je peux dire? Ben, la compagnie, je sais pas. Non, même pas. C'est pas un coup d'autre. Non, j'ai rien.
OK.
Toi, Alexis, que t'en as?
Ben, pour ma part, en fait, j'avais un coup de 12, mais pour éviter l'énergie négative qui roule beaucoup en ce moment, je vais l'éviter. Je vais donner un coup d'os, par contre,
à
un produit. J'en avais entendu parler. Je savais un peu ce que ça donnait, mais je suis allé voir les vidéos du projet Google Glass qui a été lancé autour du 4 avril, donc je suis un peu en retard. Mais comme on me reproche souvent, je ne regarde pas les produits des autres compagnies. Je regarde que Apple. Donc, je suis allé voir ce produit-là, en fait, et c'est une lunette de réalité augmentée qui permet, en fait, un paquet de choses là, dans le vidéo qui montre. Ça permet de recevoir ses emails, ses notifications, mais directement devant soi et avec un système de réponse par la voix. Et je ne sais pas exactement comment ils font pour faire la sélection. Tu sais, tu as une espèce de menu en haut. Est-ce que tu peux aller voir ta température, la météo, des trucs comme ça? Et moi, en entendant parler de ce projet-là, sans nécessairement en l'avoir vu, quand on est allé voir The Avengers, je pense que j'en avais parlé, je me disais, ces lunettes-là pourraient faire apparaître devant nos yeux les sous-titres. On pourrait aller voir le film en version originale, qui soit présenté en version originale, parce que honnêtement, la traduction était imbuvable, c'était dégueulasse. Ça enlevait vraiment là, comme un gros morceau de l'expérience de l'écoute du film quand on est allé le voir. Et je me disais, tiens, les lunettes pourraient me présenter en surbrillance, si on veut, les sous-titres du film. Donc, je voulais donner un coup d'os à Google et j'ai très hâte de voir le produit qui semble pas être trop tu sais, les lunettes qu'on a vues avant là, qui faisaient des écrans et des trucs comme ça, là, c'était des trucs tu sais, tu te mettais ça dans la face puis tu tombais en pleine face tellement c'était gros puis lourd.
Ouais.
Là, ça, c'est une paire de lunettes standard, mais il y a juste un petit morceau qui est rajouté en plus. Ça donne un peu l'impression d'être un Borg, mais façon Apple.
C'est des belles lunettes, effectivement.
Elles sont très belles.
Il y a une parodie qui a été faite par un Anglais que vous devrez chercher parce que je n'ai pas le lien avec moi, mais qui est vraiment drôle aussi. Le gars essaie de parler, se promène dans la rue, se plante sur des poubelles, des poteaux, parce qu'il regarde ses notifications, puis c'est assez drôle.
Ah!
Genre... Puis... Oui.
Pour plugger un peu plus loin, en fait, ce projet-là, qui est quand même une avancée importante, hier, je suis allé, j'ai été invité pour Mac Québec au Webcom et j'ai rencontré quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Joe Orwang, qui est un analyste industriel. Et j'ai eu l'occasion de parler comme 3 minutes. Avec lui, puis avec Carl Charret. Et il nous a parlé de ce projet-là. Il nous a posé des questions, tout ça. Et il est toujours en train de réfléchir à ce que l'industrie va avoir là, mais pas comme l'année prochaine. Lui, il va comme 5, puis 10, puis 20 ans en avant. Et il disait, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, le but, c'est d'arriver, et le mot qui m'a sorti, je trouvais ça explique tout, et c'est vraiment ça. Lui prétend qu'on va arriver éventuellement à se faire implanter quelque chose dans le corps et que ce bidule-là va nous permettre de faire ce qu'on appelle de la e-télépathie, de la i-télépathie. Il y a quelqu'un...
C'est Patrick qui vient de... Ah!
Voilà.
Ouais, d'ailleurs, le problème a été réglé. Je pense qu'il n'y a pas ses écouteurs ou je ne sais pas trop.
Ouais.
Ah, voilà. Ouais. Excellent. Donc, la e-télépathie, en fait, c'est que tu ne serais pas obligé de parler à quelqu'un pour y envoyer de l'information. Ce serait ton cerveau directement qui, via la patente, fait qu'il y aurait comme une prothèse. Puis moi et Carl Charret, on était comme, moi, je ne suis pas sûr, je vais me faire implanter quelque chose dans le corps. Moi, mettons, la limite, c'est comme dépasser ma peau. T'sais, parce qu'on l'a vu cette semaine, il y a un gars qui s'est fait implanter 4 aimants pour faire tenir son iPod Nano.
Ouais.
Ça commence à être un peu hardcore. Des bidules électroniques dans le corps. Pis là, mais je réfléchissais et je me disais, t'sais, quelqu'un qui a un pacemaker, lui, ça ne dérangerait pas peut-être. Il fait comme, ah oui, moi, ça m'a sauvé la vie d'avoir un pacemaker. Fait que si tu m'opères, tu me mets quelque chose dans le corps et que je peux faire de la télépathie avec ça, ça serait écœurant.
Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est des. Les pacemakers, c'est des bijoux de la technologie. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas juste pour réanimer le cœur, mais c'est pour quelqu'un qui a un cœur qui bat très lentement, d'accélérer toujours le battement cœur. Puis ça fonctionne même en Bluetooth pour l'installation. Évidemment, là, vous verrez jamais de Bluetooth fonctionnel là, sur un... sur quelqu'un, exactement, mais c'est là, puis c'est sûr que dans plusieurs années, là, c'est très probable, là, ouais.
Qu'on se fasse implanter des trucs. Bref, voilà, c'était mon coup d'os pour ce projet-là que j'étais très hâte de voir émerger. On poursuit. GF, tu y vas?
Oui, on va commencer... Est-ce qu'on commence avec Patrick ou...
Non, on va finir la petite nouvelle. En fait, c'est pour le WWDC.
Ah, OK.
Tu peux annoncer...
On ne sera pas parce qu'on n'a pas 1600 $ chaque à aller mettre pour nos billets. T'sais.
Ouais.
On va être, par exemple, à Sherbrooke, le 11.
On a décidé d'aller le plus loin qu'on pouvait dans le sud.
Proche, ouais, dans le sud.
On se rapproche de San Francisco quand même.
Ouais, on se rapproche un peu, ouais, exactement.
On sera à Sherbrooke.
On va aller vers l'ouest.
Ouais, c'est ça.
Ouais, en plus.
On va être à Sherbrooke. On va
aller le Pérou, tu sais.
Il faudrait se trouver une place là.
On va être chez Monsieur Ducharme, Patrick de son prénom.
Oui.
Le 11 juin, qui nous accueille chaleureusement avec des brochettes.
Wouhou! Yeah!
Yeah! Wouhou!
En fait, on a pensé y aller pour la connexion Internet, mais on va rester pour les brochettes.
Oui, exactement. Ouais. Fait qu'on va être en direct avec M. Duchamp, Vincent, Alexis et moi. On va faire on va être en direct sur tout l'événement. Qu'est-ce qui va se passer cette journée 11 juin? Tant attendu par tout le monde autour de la planète. C'est comme...
Y a-tu un heure qui était... C'est-tu probablement encore 10h? Un heure. 10h locale?
Ouais.
Ça n'a pas été dit encore, mais c'est probablement la même.
Ouais, c'est ça.
L'heure que d'habitude.
Fait probablement 13h.
Exactement ça. Ça va être 13h ici. Fait que on va arriver genre... ça prend quoi, une heure? On va être assez de bonne heure chez M. Duchamp. Fait que...
Ouais.
On va arriver tôt.
Moi puis M. Duchamp est en ligne, je pense, où il nous écoute probablement. Moi et JF, on mange beaucoup de brochettes, mais je pense que Vincent est à la salade verte, fait que ça va être correct.
Toujours de la discrimination dans ce show-là. Là.
Ouais, c'est ça.
Donc, y a une quatrième personne qui est avec nous aujourd'hui. On est vraiment très chanceux de l'avoir parce que je pense qu'avec tout le bruit que l'application a fait, c'est directement tout le monde en parle si l'émission roulait encore qui serait cette semaine. C'est M. Patrick Gagné. Et quand il aura une carrière aux États-Unis, il s'appellera Patrick Winning.
Patrick Gagné.
Ouais, ce serait mieux Winning, je pense. Donc, Patrick Gagné de la compagnie Tag Taxi. Vous en avez sûrement entendu parler. En tout cas, nous, on en a parlé sur Mac Québec. C'est une nouvelle application qui est sortie cette semaine. Et puis, les choses ont un petit peu déboulé. Moi, j'ai rencontré Patrick. J'y parlais sur Twitter par email. Et je l'ai croisé hier au Webcom. Puis, on a convenu. Il a dit, bon, ben, je vais faire des heures supplémentaires. Je vais être là à 21h avec vous. Et le voilà. On a réussi à régler tous les problèmes. Ça va bien, Patrick?
Ça va bien. J'ai pas l'air trop poqué. C'est... Je suis content. T'sais, parce que je pensais que j'allais avoir des gros cernes. Puis... être un peu space. C'était une semaine assez intense.
Oui, ben t'as eu une semaine effectivement de leader d'association étudiante pratiquement là. Non, c'est vrai qu'ils sont occupés.
Comme Gabriel Nadeau-Dubois qui est devenu une star, la star nationale.
Ouais, ben ouais. Ça dépend. Là. Il y a toujours des réfractaires.
Ouais, tout à fait.
C'est pas nommé l'idole de JF.
Non.
Mais bref, donc l'application.
Je pense que c'était l'idole de Xavier Dolan, par exemple.
C'est vrai.
Oui, ça, oui.
Pour faire référence à Tout le monde en parle. Donc, Tag Taxi qui est sorti cette semaine, qu'est-ce que c'est Tag Taxi?
En deux mots, c'est un service de commande de taxi par mobile, par téléphone intelligent. Qui permet de commander en deux boutons une voiture et la faire venir vers soi. Essentiellement, c'est ça. Tag Taxi. On pourra parler du modèle d'affaires, du positionnement par la suite, mais essentiellement, en deux mots, c'est ça.
Puis on peut faire aussi le suivi de ce véhicule-là, le taxi que vous avez commandé.
Oui. Là, si tu veux, on peut rentrer dans les fonctionnalités de l'application.
On va y revenir un petit peu plus tard. En fait, moi, j'ai
arrivé... Je vais livrer ça en deux mots, là.
Voilà. Donc, moi, je suis rentré à Webcom hier et la première porte qu'il y avait devant moi, c'était celle où est-ce que tu étais. Ça tombait vraiment bien. C'était comme le destin qui m'avait apporté là. Et...
C'est ça, hein?
Pardon?
T'as pas eu à monter deux étages.
Non, effectivement. Toujours au plus court, moi. Ta présentation au Webcom d'hier était à propos de l'optimisation des transports alternatifs à la voiture habituellement ou à la voiture, à notre propre voiture. Tu y parlais des moyens qui existaient, des compagnies qui offraient le même genre de service ailleurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Au départ, en fait, tu parlais de ce marché-là du taxi qui était séparé en deux colonnes bien définies.
Oui, puis l'industrie du taxi, on n'a pas souvent tendance à positionner le taxi, même la limo éventuellement, mais je pense que c'est plus un produit de luxe, le taxi comme étant partie du mix de transport urbain. Tu sais, on l'exclut parce qu'on se dit que c'est privé, c'est une entreprise privée. Mais je pense que dans ce que je présentais hier à Webcom, l'idée, c'était de positionner le taxi comme étant une partie intégrante du mix de transport urbain ou ce que Équiterre appelle le cocktail transport et qui est composé du bixi, de la marche à pied, de la course, du patin à roulettes, et de, évidemment du système de transport en commun, de l'autobus, du métro.
Okay.
Donc, les deux colonnes auxquelles je faisais référence, ben, c'était l'industrie de la voiture, qui était essentiellement composée de deux segments, la limousine, donc la voiture privée, ou ce qu'on appelle en Angleterre ou aux États-Unis le black sedan, donc c'est les voitures plus spacieuses noires, et le segment du taxi, qui est un segment plus important dans cette industrie-là. Donc, voilà.
OK. Et l'idée, en fait, est venue d'où de créer cette application-là pour peut-être... en fait, c'est une application pour hailer un taxi de meilleure manière. On le sait, là, ça fait depuis la nuit des temps que l'industrie du taxi existe. C'est toujours la même chose. On appelle une répartitrice, on lui donne l'adresse, puis on n'a pas le temps vraiment d'y parler. Là. Elle n'a pas le temps de faire la conversation. Faut vraiment lui pitcher toute l'information. Souvent, on reçoit le taxi, on a la moitié des trucs qu'on avait demandé. Là, tu sais, ouais. Puis là, la personne peut se tromper ou pas. Moi, je ne savais pas, tu m'as appris ça hier, mais maintenant, les taxis sont équipés d'une espèce de GPS. Un GPS plus commercial que d'autres choses, là, qui est capable de communication un peu, c'est ça?
Oui. Ouais.
OK.
Je vais revenir à ta question précédente, puis après ça, on pourra parler de ce qui est de l'équipement dans les voitures de taxi.
Oui.
Donc, ta question, c'était d'où vient l'idée de tag à l'origine. Puis il faut que je parle des fondateurs de cette entreprise-là, qui sont Prospect. C'est une agence de Montréal qui a décidé il y a 9 mois même de mettre au monde cette idée-là. C'est un ancien chauffeur de taxi, en fait, qui est associé chez Prospect,
okay.
qui a eu le flash, puis en voyant les applications existantes, parce qu'il y a un marché pour ça, on en parlera un peu plus loin, de la concurrence, les joueurs qui sont dans ce marché-là, puis aussi, je dirais, du momentum que cette industrie-là est en train de prendre. Mais eux autres, ils ont tout simplement vu une utilisation très pratique, une façon d'améliorer une expérience toute simple dans notre quotidien en utilisant une application mobile, tout simplement.
Okay.
Et de l'idée simple de faire une application avec l'ancienne compagnie avec laquelle ils travaillaient, Taxi Co-op, ben, cette idée-là est née, puis elle a fait son chemin. Ça fait boule de neige. Au départ, c'était Montréal. Après ça, c'était pourquoi pas le Québec? Pourquoi pas le Canada? Et finalement, on se dit pourquoi pas l'Amérique du Nord?
Vous êtes en train de travailler effectivement sur l'Amérique du Nord.
Absolument,
en fait.
Absolument. Puis je vois pas pourquoi on devrait se limiter au territoire canadien alors qu'il y a des entreprises américaines qui commencent à débarquer sur le territoire canadien. Moi, je sens aucun complexe, ni intellectuel, ni financier par rapport à une compagnie américaine. Dans ce segment-là, on a toutes les capacités de compétitionner et de lever une entreprise qui soit capable d'être concurrentielle sur ce marché-là.
Je suis sûr que Kim, qui t'écoute en ce moment, qui est avec nous, elle jubile, elle, qui est très, très entrepreneuriat et tout ça. Là.
Ouais,
elle est très contente
ouais.
d'entendre ça, là, du monde qui veulent foncer. Si on parlait un petit peu de l'application en tant que telle, Jean-François l'a expérimenté un petit peu, je pense, cette semaine. Moi, je l'ai ouvert. Nos expériences ont été un petit peu différentes. Je me suis fait faire une démo aussi hier. Tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne à l'ouverture de l'application? C'est vraiment simple d'abord, là, on doit dire.
Est-ce qu'on voit bien le tag, le bouton? Excellent. Okay.
Elle est sur le côté, cantelé un petit peu, ouais. On va voir. Non, mais juste l'écran tiltlé un petit peu. Ouais, on le voyait mieux. Ouais. Voilà.
Ouais, là, on le voit bien.
Voilà.
Là, on le voit bien. C'est un gros bouton qui te permet de te localiser. Donc, le tag, le geste de se taguer. Puis j'ai entendu des gens, c'est drôle, cette semaine, me dire « Hey, je l'ai essayé dès la semaine passée, ton application, puis je me suis tagué. » Donc, la marque devient un verbe.
Le terme.
C'est là où ça devient intéressant, quelque chose de porteur là-dedans.
C'est important. Mais...
Donc, Jean-François vient de cliquer sur le bouton « Tag-moi ». Tout ce que c'est, dans ce cas-là, c'est qu'on géolocalise l'appareil, puis ensuite, on te demande d'éditer l'adresse qui t'est fournie. On te fournit une fourchette de numéro de porte qui est fournie par Google Maps. Et ensuite, on te permet d'éditer. Merci Jean-François qui fait la Vanna White.
Oui, oui, ils font la
exactement. Je suis très bon là-dedans.
C'est super. Tu peux l'éditer exactement. Tu peux l'éditer à bras. rentrer le numéro ou tu peux revenir à la fonction d'édition à l'écran précédent. Donc, si tu retapes sur le crayon, normalement, dépendamment des localisations, dans ce cas-ci, on l'édite directement, mais il y a des localisations où on va avoir Foursquare.
Un listing Foursquare.
Une liste d'adresses qui vont être suggérées, dépendamment d'où tu es localisé, qui va te permettre de sélectionner directement d'un menu défilant une série d'adresses qui sont suggérées par Foursquare.
Donc, dans une zone plus commerciale, on aurait ce listing-là. JF étant dans une zone plus résidentielle, il fait à bras.
Okay. Exactement. Et là, ensuite, Jean-François nous montre l'écran où on personnalise donc nos choix.
C'est intéressant, cet écran-là. C'est ça que je voulais dire quand je disais ben on n'a pas le temps de donner nos demandes. Là, qu'est-ce qu'on a comme choix?
Ben, on a le mode de paiement, on a la possibilité de sélectionner si on veut des bagages, quel type de bagages, quel type de voiture aussi. Si on a
effectivement... Donc, si on veut une minivan ou quelque chose de plus luxueux, de plus gros.
Exactement. Puis ensuite, je vais juste arriver à cet écran-là de mon côté.
OK.
J'ai pas tous les choix par cœur. Il y a bon, animaux, etc. Puis précision sur l'emplacement. On peut même dire en cliquant sur ça que si on est dans un bâtiment complexe, qu'on va se retrouver à l'entrée ou au coin, à l'entrée ou au pavillon A ou B, si on est dans un bâtiment assez spacieux ou grand. Puis une fois qu'on a fait cette sélection-là, on est amené à l'écran où là, on sélectionne, demande. Là, Jean-François ne va pas peser sur demander un taxi parce qu'il y a vraiment une voiture qui arrive. Et nous, cette semaine, ce qui est drôle, c'est que. Puis il y a quelque chose de magique là-dedans. Et c'est ce qui rend, moi, je trouve, l'expérience TAG super intéressante, c'est que ce n'est pas juste une application qui vit dans le monde virtuel, elle est branchée dans le monde réel.
Oui.
C'est un utilitaire, d'une part, et aussi, c'est du real life. Et c'est là où moi,
C'est presque James Bond de se contrôler une voiture avec son téléphone, tu sais, parce qu'elle vient toute seule.
Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir ou je continue?
Non, tu peux y aller.
Il y a deux plans. Je pense que l'application joue sur deux plans. Ça joue sur, le plaisir quasiment reptilien de contrôle. Tu sais, je veux une voiture, je la veux tout de suite, bang, je me tague. Et l'autre qui est de planification puis de contrôle. T'sais. Je sais que je contrôle la voiture. Puis là, ce qui se passe après qu'on demande la voiture, et ça peut se faire en deux boutons. Une fois que tu es habitué à tes settings, ils sont préenregistrés, une fois que tu les as faits, tes choix, puis tu utilises toujours la même adresse, bien, c'est deux boutons, puis la voiture s'en vient. Et là, ce qui se passe, c'est quand la voiture arrive et le chauffeur appuie sur le taximètre, bien là, la voiture est sélectionnée. Mais avant, dans l'attente, il y a un plan qui apparaît et qui permet de tracer, de voir la voiture venir vers soi, parce que la voiture aussi, on la géolocalise. Fait qu'il y a un plan qui apparaît, on voit l'icône de la voiture de taxi qui vient vers soi.
Ça, c'est cool.
On vient d'améliorer l'expérience d'attente de façon significative. C'est un détail, hein, mais dans l'expérience, tu dis, je viens d'enlever un petit degré de frustration / stress parce que là, je la vois à la voiture puis je contrôle mon événement. Tu sais.
Je me souviens, moi, j'ai travaillé 10 ans à la coop informatique sur Sainte-Catherine et on commandait des taxis. C'est arrivé à quelques reprises qu'on commande des taxis parce qu'un client nous l'a demandé. Mais habituellement, on refusait parce qu'on disait au client, écoute, on garde ton ordinateur, va dehors, arrête-en un, il va arriver parce que c'était tout le temps très, très long. Effectivement, que s'il allait attendre sur la rue, ben s'il partait avec une boîte de iMac ou un Mac Pro, puis un écran, la minivan ne passait pas. Fait que là, avec l'application, on aurait pu commander pour lui. C'est fait, c'est commandé, votre taxi arrive, il est rendu à telle place, voilà. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est un concept qu'on appelle la gamification des concepts un petit peu, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Une question qui me vient à l'idée comme ça, on a dit à JF de ne pas taper sur le bouton « soumettre ». Est-ce qu'il y a une manière d'arrêter ou de refuser ou d'annuler notre code?
Oui, c'est certain qu'on peut l'annuler, mais chaque seconde qui passe, c'est une voiture qui se rapproche vers nous. Parce que, une fois qu'on a fait la demande puis que le taxi est assigné, Ça, ça peut prendre un certain temps aussi. Ça peut prendre quelques secondes, voire 30 secondes ou 45 secondes, dépendamment de la charge dans le système de répartition. Il faut savoir qu'il n'y a aucun être humain qui intervient dans le processus.
Okay.
En aucun moment, il y a un être humain qui intervient dans...
C'est ça. Les taxis, comment ils l'apprennent, eux? C'est une répartitrice qui les appelle? Ou...
C'est branché directement dans le système de répartition de Taxi Coop.
OK.
Et ensuite, une voiture qui est assignée selon les règles d'affaires qui sont établies par Coop, par secteur. C'est le premier qui est arrivé dans la zone qui a l'appel. Et nous, quand de côté utilisateur, quand la voiture est assignée par le système de répartition, il y a un pop-up dans l'application qui t'indique directement le numéro de la voiture, de la vignette qui va venir vers toi. Donc, non seulement tu vas voir la voiture venir, mais tu sais quel numéro elle va avoir. Et lui, dans son écran, je ne sais pas si vous avez vu les appareils à même les taxis, il voit ton nom, ton prénom, qui provient de l'application. Il voit Tag Taxi, donc il sait que c'est un appel qui provient de l'application. Et ensuite, il va voir tes spécifications. Donc, si tu veux MasterCard, il va apparaître MasterCard sur l'écran. Donc, on évite aussi des voitures qui se présentent et qui n'ont pas la capacité de traiter un paiement par carte de crédit notamment. Puis une fois que ça c'est fait, là on est dans la course. Et là on se ramène à l'écran de départ, mais il y a un petit icône qui apparaît sur historique de course, qui est une des trois fonctionnalités dans l'application, mais course. Okay. Il y a un petit icône qui apparaît, puis quand on l'ouvre, bien là il y a l'historique de ces courses et c'est là qu'on peut aller évaluer la course basé sur trois critères,
oui.
C'est-à-dire la qualité de la conduite, la propriété du véhicule et la courtoisie du chauffeur.
Okay.
Et ça, c'est une petite fonctionnalité, encore une fois. On est vraiment dans le micro-détail, hein, mais qui ajoute à notre avis une qualité à l'expérience qui est le fun. Le fait de pouvoir évaluer la course, ça aussi, je pense que c'est un outil précieux, surtout pour la compagnie de taxi qui va recevoir cette donnée-là. C'est de l'intelligence d'affaires, en quelque sorte.
OK. Sur
le chauffeur, sur la conduite. Puis ensuite, c'est traité de façon agrégée chez Coop et de façon individuelle aussi.
OK.
On nous demande dans le chat...
quand est-ce qu'elle sera disponible pour Québec?
Pour Québec.
Ah, super bonne question. On nous a posé plusieurs questions cette semaine. Je peux peut-être les aborder en rafale.
OK.
La première, c'est donc, est-ce qu'on va être à Québec ou est-ce qu'on va être à Longueuil?
Parce qu'il y en a une qui est dans le chat avec nous autres qu'elle utilise, mais beaucoup le taxi.
Ouais.
Elle a hâte d'utiliser l'application.
C'est Kim qui a posé la question. Effectivement, Concept sera-t-il disponible à Québec? La réponse est oui. Maintenant, faut savoir que ce sont des négociations à la pièce, compagnie par compagnie. Ce sont toutes des compagnies indépendantes. Je n'ai pas parlé de la structure de l'industrie, mais c'est une industrie qui est très fragmentée. Il n'y a pas un joueur en Amérique du Nord qui a plus de 3 % du marché.
Okay.
L'enjeu pour une compagnie comme la nôtre, c'est d'aller négocier chacune de ces ententes une à une ou de passer par des ententes potentiellement de distribution, mais ça va être une à une en général. Nous, on a une relation étroite, un partenariat privilégié avec Taxi Coop. Et à Québec, on est en discussion avec certaines compagnies à l'heure actuelle, donc ça s'en vient. Je ne veux pas donner de temps, je ne veux pas faire de promesses à l'heure actuelle parce qu'on a... Je ne contrôle pas le processus dans son ensemble. C'est une négociation de gré à gré qui se met en place.
Excellent. On a déjà dépassé de pas mal le temps qu'on s'était imparti, puis on nous dit dans les oreilles là, qu'il faudrait continuer. Pour ma part, en fait, j'avais demandé j'ai demandé à la personne qui était sur le plancher du webcom, quand on donne des notes à la fin de la course, je me demandais s'il allait avoir éventuellement son trop fort pour la radio créole ou des trucs comme ça. Ou peut-être quand on commande le taxi, dire si on est jaseux, si on veut écouter la radio ou, tu sais, des taxis, il y a des espèces de stéréotypes souvent, là, le monsieur qui parle beaucoup, la radio, le gars qui est toujours au cellulaire aussi, des trucs comme ça. Fait que je sais pas si c'est des trucs qu'on va voir apparaître dans Tag Taxi.
Ça, c'est la première fois que j'ai cette question-là.
Ouais, ça vient d'Alexis.
C'est pas obligé de répondre. Hein, monsieur.
Elle me fait sourire. Est-ce que c'est une fonctionnalité que beaucoup de monde va vouloir avoir? C'est un petit ajout qui pourrait être sympathique. Est-ce que c'est vraiment facilement implantable du côté des compagnies de taxi? Ça, c'est une chose que je dois... que je dois...
Oh, ils ont déjà, comme tu l'as dit, en fait, ils ont déjà leur truc d'affaires, donc ça serait plus compliqué là, de...
Oui, oui, tout à fait.
C'est son environnement de travail, là, il est chez eux, fait que c'est correct. Une autre fonctionnalité, en fait, qui pourrait être implantée, c'est de demander un taxi payant avec Alexandre Barrette dedans. Puis, tu sais, ta course ne te coûte rien. Donc ça, ça pourrait être intéressant.
Je comprends pas celle-là. Est-ce que
Taxi payant, c'est une émission à Canal V.
Oui,
c'est avec Alexandre Barrette. Tu tombes dans le taxi, puis là, tout s'allume. Il te pose des questions pendant ta course.
Oui.
Puis tu ramasses de l'argent.
Je l'ai pas vu, j'ai entendu parler. C'est super sympathique.
Lundi à 7h à V.
OK.
Moi, j'ai une
alerte à la bombe au Parlement,
C'est hors sujet un peu, mais s'il y avait les Canadiens en série, on donnerait le score. Là, c'est quand même assez important, là, mais aujourd'hui, il y en a une dans un cégep en Outaouais, si je ne me trompe pas.
Oui,
ouais, effectivement, c'est vrai. Au cégep, les trois cégeps ont été
vidés. Moi, j'ai une question.
Summer is coming.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai une question. L'application est sortie depuis vendredi. Ça va faire bientôt, ça va faire une semaine demain. Combien de téléchargements ont été faits sur l'application?
J'ai pas vu les stats aujourd'hui. On est à peu près à 500 par jour.
C'est bon.
De téléchargements, fait que ça roule. On est étonné de
l'accueil.
De l'accueil, mais en même temps, je me dis, il y a quelque chose d'intéressant dans l'expérience. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment un démarrage avec des utilisateurs. Qu'on dit « early adopter », donc des gens qui vont l'adopter tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette semaine. On est parti, on a fait un pré-lancement à l'APCM, donc le Publicité Club, mercredi dernier. Puis lundi, on a commencé un lancement médiatique. Fait qu'on a fait vraiment une opération média, mais une opération aussi au sein au sein des différentes associations, puis durant les événements aussi, comme Boule de Cristal, Webcom et aujourd'hui le Mix Media.
Voilà.
Donc, c'est un des contributeurs, parce qu'il ne faut pas s'illusionner avec le fait que quand tu places une application sur l'App Store puis tu la laisses dormir là, ça ne va pas lever par magie. Il n'y en a pas de magie. C'est, à moins que tu achètes les downloads, là, puis je sais que ça se fait. Nous, on n'est pas dans ce genre d'opération-là.
Écoute, moi je suis développeur, donc c'est peut-être un peu plus technique, mais toi, est-ce que premièrement tu es développeur? T'es-tu parti au développement de l'application?
Non, okay. Moi je suis pas développeur. Ça fait 15 ans que je suis dans le web. J'ai toujours été soit au développement des affaires, soit au marketing, en stratégie marketing web, numérique. J'ai géré le portefeuille mobile chez TC Media, mais j'ai pas un background technique. Ni un grand talent de codeur non plus. Okay. Mon intérêt, il est plus centré usager. J'ai vraiment... c'est une des choses que j'ai développées dans les dernières années, c'est de placer au centre de notre réflexion justement l'usager. C'est comment on va amener cette application-là à terme à se développer, ou ce service-là de tag taxi, au-delà de simplement commander un taxi. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer ce service-là, si tu veux? Mm-hmm. On a discuté hier potentiellement d'un module business to business, c'est-à-dire corporatif, qui pourrait remplacer les pads de coupons qui existent dans les entreprises. Tout automatiser l'allocation des courses à chacun des comptes dans les entreprises, standardiser en quelque sorte pour l'entreprise et réduire des coûts. Donc, il y a un volet corpo qui pourrait s'implanter aussi dans le service. Et il y a d'autres services qui pourraient être implantés à même l'application.
On a parlé un petit peu plus tôt des trucs comme selon, en fait, tes activités... On avait parlé de différentes choses, entre autres la météo qui pouvait influencer sur le type de transport qu'on prenait, des trucs comme ça.
Oui. Si tu dis, bon, je me mets au centre de l'expérience, j'ai commandé une voiture, mais là, je rentre dans une voiture pour 5, 10, 12, 15 minutes, 20. C'est selon le trajet, puis qu'est-ce qui va se passer là-dedans? En général, tu vas checker tes emails. La plupart des gens qui ont des téléphones intelligents, là, ils vont commencer à tweeter ou regarder ses emails. Mais si dans l'application, il y avait quelque chose qui se passait, puis on agrégeait d'autres services, notamment, justement, des alertes. On a une alerte de la STM qui nous indique qu'il y a une panne dans le métro.
Comme on en a tous les jours.
Oui, puis de ces temps-ci, on en a pas mal. Moi, ça m'est arrivé. Mais si je savais d'avance, puis ça me générait, moi, une certaine action dans l'application Tag, mm-hmm. c'est intéressant parce que, justement, c'est là où le taxi joue un rôle dans le mix de transport, dans le cocktail transport urbain. Et aussi, il y a une corrélation très étroite entre la météo, quand il pleut, mm-hmm. notamment, et la commande de taxi. Donc, on est capable aussi d'aller chercher un feed de données relié à la météo qui pourrait initier de façon automatisée ou personnalisée des actions qui pourraient justement rendre la vie plus simple. On est vraiment dans le domaine utilitaire ici, potentiellement ludique à terme. Quand je parle de services qu'on pourrait ajouter dans le temps, je pense que des fonctions ludiques ou de gamification, comme tu disais tout à l'heure, Alexis, ça pourrait très bien envisager.
Okay. Effectivement, il y avait un paquet de bonnes idées que j'avais, mais comme j'ai dit, j'ai un manque de mémoire, donc on a été super contents. Il va y avoir des mises à jour puis des features qui vont se rajouter à ça éventuellement. Donc, t'es le bienvenu, en fait. Lâche-nous un appel quand il y aura des trucs intéressants à annoncer, puis tu seras le bienvenu parmi nous. On en parlera, il y a beaucoup à dire sur le sujet.
Ben, ça me fait plaisir, puis c'est super cool comme formule. J'adore la plateforme.
Ben, t'en parleras à tes amis, parce que nous autres aussi, on veut monétiser ce truc-là.
Regarde, je vais tweeter là, on va...
Excellent. On va faire très, très vite. Est-ce qu'il nous reste du temps? On a quoi, 12 minutes?
On a... on a 14 minutes.
On a 15 minutes, moi.
Un gros 15 minutes pour les...
En fait, on en a plus, parce qu'on commence à écart, là, à 2h, à
22h. Oh, on a du temps.
25 minutes,
Excellent. Donc, on va essayer de passer rapidement dans les nouvelles. La première, en fait, c'est les résultats du sondage de la semaine passée. Jeff?
Oui, le sondage de la semaine passée, c'est quelle méthode employez-vous sur la sauvegarde de vos données? On avait trois choix la semaine passée, un disque dur externe, les deux ou l'info nuagique. Que je recommande pas tout le temps, mais bon.
C'est plus au niveau de la bande passante que.
Oui, c'est la bande passante. Ouais, c'est ça. Parce que on va en reparler un petit peu plus loin, là, mais bon. On a eu quand même presque 130 personnes qui ont répondu, qui prennent des disques durs externes pour faire leur sauvegarde, comme moi. Là. Moi, je prends ma Time Capsule pour faire nos sauvegardes. C'est ça. Fait que pour cette semaine, c'est. C'est le sondage qu'on a mis sur macquebec.com, c'est quel système d'exploitation est installé sur votre Mac présentement? Parce qu'on sait qu'un ordinateur Mac est bon pour, tu sais, on peut l'utiliser comme moi, mon ancien que vous n'entendez plus, ma fan maintenant, comptez-vous bien chanceux. Je l'ai toffé pendant 4 ans. 4 ans.
Puis t'avais quoi comme système dessus?
Ben moi, j'ai été au plus loin. Là. J'ai été au plus loin de sa vie là, avec Lyon. Là. Fait que c'est pour ça que la fan a roulé, parce que on s'entend que Lyon fait beaucoup...
Mais je pense que la question, c'est pour le nombre de systèmes d'exploitation, non? C'est pour si tu as Windows en plus de macOS, en plus de Linux?
Non.
C'est vraiment la version.
C'est quelle version est installée présentement dans votre ordinateur.
D'accord. Est-ce que Mountain Lion est là?
Serge ne l'a pas mis parce qu'on peut pas le. Ben, je pense pas qu'on peut le mettre, là, mais bon.
Oui, pour une réponse comme ça.
En tout cas, moi, je l'ai. Voilà. J'aurais voté pour ça parce que moi, je travaille avec tous les jours. Fait que...
OK, 66% des animateurs de Mac Québec utilisent un système d'exploitation qui n'est pas sorti.
Oui, c'est ça. Ben, on paye pour.
Ouais.
J'ai payé. En même temps, normalement, un système d'exploitation en bêta n'est pas supposé être utilisé de façon quotidienne comme système principal. C'est une des choses présentées par Apple.
C'est pour les faibles.
C'est comme, c'est comme moi, avec mon iPhone, j'utilise quand même la bêta tout le temps, sauf que normalement, si j'étais une grande compagnie qui développait, ben, j'aurais un iPhone juste pour le développement, puis mon iPhone, ce serait la version 5.1 qui serait disponible pour tout le monde. Fait que tu sais... Mais
tu vois, toi, tu roules sur une bêta, tu développes des applications, tu devrais avoir un appareil à côté, et pourtant, tu développes de très bonnes applications.
Bon, on me plug en même temps.
Et
mais,
voilà.
Mais oui. Si j'avais de l'argent, j'aurais 2 iPhones, mais écoute, je pense que c'est l'argent qui manque plus que d'autres choses.
Oui, mais c'est comme ça pour tout le monde, hein?
Ah oui, c'est sûr.
Si on avait tous de l'argent, on aurait tous deux iPhones.
Ouais.
Puis
ouais.
On se téléphonerait, tu sais, pour comme...
Pour voir si la bande passante est bonne et tout. Voilà. Tout ça.
C'est bref, ça. On va pas rester sur un sondage tout le show.
Non.
Y a,
moi, je suis triste. Moi, je suis triste, OK? Je vais vous dire deux mots.
Ouais.
Couteau suisse et QuickTime.
Ben, moi, je pense à Périane.
Oui.
Yay!
Bravo!
Périane, donc, qui est effectivement ça, ça a toujours été présenté comme le couteau suisse, le package de codec à ajouter en premier lieu pour QuickTime. Si on ne voulait pas télécharger d'autres applications comme Movist ou VLC, on téléchargeait Périane et à ce moment-là, ça permettait à QuickTime de lire un bon nombre de...
d'Ubuntu 1080p.
Voilà, de d'Ubuntu 1080p. Donc, le projet a été abandonné. C'est un projet qui était open source et le code sera remis. Je pense que c'est sur GitHub ou quelque chose comme ça.
Ça va être sur la prochaine version parce qu'on sait que Perian est tout le temps mis à jour. On est sur la version 1.2.3.
Non, mais le code, les gens vont pouvoir se l'approprier pour
redire. Ah oui, sûr. Que, OK, eux autres, ils disent qu'ils vont le discontinuer, mais d'après moi, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Là,
ils vont le mettre open source, en fait.
Oui, c'est ça. Fait voilà. Mais bon, la prochaine version finale, les fondateurs de Perian vont...
C'est réglé quelques bugs, je pense.
Oui, parce que quand tu vas sur leur site Internet, ça te dit OK, il y a quelques bugs et ça va être réglé dans la prochaine version. Et on ne sait pas trop si ça va être compatible avec 10.8, mais moi, je peux vous dire que oui, c'est compatible avec 10.8.
Excellent.
Fait que...
Sinon, en fait, ben là, on a des petites nouvelles en fait, qui tournent plus autour de la rumeur. On en a parlé beaucoup. Entre autres, en fait, on apprenait cette semaine qu'il y a probablement... Et c'est presque évident, là, une nouvelle application plan qui devrait arriver. Donc, déjà dans le iPhoto que Apple a sorti pour le iPad, les cartes qui sont utilisées pour géolocaliser vos photos, ces cartes-là ne proviennent plus de Google. Donc, c'est à peu près certain qu'ils vont être sortis de l'iOS. On sait qu'Apple aussi a acheté quelques compagnies, dont une compagnie de Québec du nom de Polyneuf. D'autres, en fait, pour faire du visionnement 3D.
Il y en a acheté trois compagnies, de 2009 à 2011. Donc.
Pour des cartes. Moi, ce que je me posais la question, puis peut-être Patrick va pouvoir nous répondre, est-ce que ça va impliquer quelque chose pour les applications qui incluent, ou peut-être Vincent aussi va pouvoir nous répondre, vu que Patrick, comme il l'a dit, n'était pas trop technique, mais est-ce que ça peut causer un problème dans une application de géolocalisation comme Tag Taxi, ce genre de changement important-là? Parce que je pense que les API de Google sont assez libres, puis on sait qu'Apple a tendance à plus fermer ses trucs. Oui. Ça peut-tu poser des problèmes selon vous deux, en fait?
Ben, moi, je pense que oui. Ça pourrait te déranger, mais je pense pas qu'ils vont, par contre, le fermer du jour au lendemain. Donc, ils vont peut-être donner une période de 6 ou 8 mois. Ils vont peut-être le laisser toujours disponible, puis avoir les deux systèmes pour tout le monde, mais ils vont... privilégier celui d'Apple. Donc, ils vont peut-être mettre des petites choses de plus faciles à faire sur leur version, puis leur application, ça va être leur application plan, puis ce ne sera pas celle de Google, peut-être.
Excellent.
Oui, puis ça, mais c'est certain que pour les développeurs, c'est un mouvement de plaque tectonique à chaque fois que ce genre de décision est prise. Hein, ça veut dire qu'il faut que tu rechanges un paquet de 30-40% de ton code dans le back-end parce que Apple a décidé d'aller dans ce sens-là. Ça, c'est malheureux, mais c'est ça. On vit dans un écosystème de géants, puis il faut s'adapter. Moi, je vois, c'est sûr qu'il y a un impact sur les coûts à terme. Je ne sais pas si vous avez essayé l'application Friends.
Find My Friends?
Friends d'Apple, là, qui te localise. Moi, je trouve des fois qu'elle est plus précise que Google. Honnêtement, je ne sais pas comment ils ont cartographié, si c'est basé sur effectivement Google Maps ou non. Mais je trouve que quand je compare les deux, souvent, j'ai un niveau de précision plus élevé avec Friends.
C'est peut-être parce qu'au niveau de l'accès probablement que Apple pousse plus d'informations pour aider à la géolocalisation, contrairement à l'application Plan qui pourrait peut-être, je sais pas, peut-être certains outils qui sont pas disponibles à l'application. C'est sûr que souvent c'est des petits jeux. C'est Google, ils ont une petite chicane. Ils ont peut-être moins d'informations que justement des applications built-in d'Apple.
Parlant d'innovation de Apple, il y a le PDG de Foxconn, qui est une compagnie qui fabrique les appareils d'Apple, qui les PDG ont tendance à souvent ouvrir leur bouche pour parler de nouveautés, alors qu'ils ne devraient peut-être pas, qui a confirmé en fait le Apple TV. Ça s'en venait, les pièces sont commandées, tout ça. Puis il y a eu un démenti de la part de la compagnie. C'est comme si les CEO étaient comme des espèces de marionnettes ou de pas des marionnettes mais des le nom m'échappe là, le petit renne au nez rouge de nez rouge là, la mascotte, voilà. C'est comme si le CEO était la mascotte de la compagnie puis qui disait oh on a une Apple TV, puis la compagnie fallait qu'il fasse comme non fallait pas que tu le dises là, comme Apple l'a pas annoncé. Ça arrive souvent ce genre de truc là.
C'est certain que comme président d'une entreprise, t'es tenu au devoir de réserve sur certains éléments. Puis il y en a qui sont plus sanguins que d'autres. Moi, je vais avoir tendance effectivement à m'ouvrir la trappe plus qu'il faut. Puis je sais que je vais me mettre dans le pétrin de temps à autre.
Écoute, on est tous des adultes consentants. Fait que as-tu comme quelque chose à nous dire? On est comme 15 personnes live.
On n'enregistre pas.
Moi, tu sais, hier, dans la présentation, j'ai livré quand même pas mal de stock à Webcom. Tu sais, des bouts de ma stratégie. J'ai pas mis tous les morceaux de puzzle sur le mur, mais il y avait plusieurs morceaux là-dessus. Si tu mettais à colle en tout ça, tu pouvais voir un portrait. Fait que je considère que comme président, j'ai livré pas mal d'informations dans le public. Des fois, je me demande si j'en livre pas trop, mais je suis plus de la génération collaborative que de fermeture. Puis tu sais, l'image du CEO qui contrôle tout, l'information, c'est en train de briser, ça. C'est en train de céder. Puis le gars de Foxconn, c'est une entreprise qui est un peu le pantin d'Apple en passant. Fait que c'est certain que... Je pense que les relations publiques de Foxconn ne sont pas dictées par le conseil d'administration de l'entreprise, sont dictées par Apple. Tu sais.
Donc Apple aurait peut-être fait passer, parce qu'ils sont reconnus pour faire ce genre de tactique-là, là, de faire sortir des espèces de... En fait, c'est eux qui s'amusent à perler les rumeurs à différents endroits. Ça se pourrait, effectivement.
On sait qu'Apple a mis de l'argent dans Foxconn pour du développement d'usines en Chine. Donc déjà là, ils ont déjà une main prise un peu. Puis c'est pas mal. Je veux dire, s'ils perdent un contrat avec Apple, ça va faire mal à Foxconn. Donc c'est sûr qu'ils ont un petit contrôle là-dessus.
Parlant d'usines de fabrication et de nouveaux produits, en fait, il y a deux nouvelles qui ont retenu notre attention cette semaine. Il y aurait, puis on s'y attendait pour l'iPhone 4S, des écrans plus grands pour les nouveaux iPhones. On passerait probablement à l'écran de 4 pouces. Et on parle aussi des écrans Retina Display pour les prochains iMac et MacBook Pro.
Oui. Moi, quand j'ai lu cette nouvelle-là, je l'ai lu sur le Wall Street Journal.
OK, quand même.
C'est premièrement, l'écran de 4 pouces, ils disent de au moins 4 pouces. OK. Je pense pas que ça va monter à 5-6 pouces, là, mais...
J'espère pas comme le Galaxy Note.
Non, j'espère pas.
Actuellement, je pense que la grandeur optimale ou que la plupart des critiques s'entendent pour dire, c'est 4.8. Passer 4.8, comme on le dit souvent à l'émission, c'est que à une main, l'appareil est trop grand et tu ne peux plus l'opérer d'un seul pouce. Non, c'est important ça. De pouvoir faire ça. Moi, j'ai l'impression que l'écran ne dépassera pas le 4.5. Puis 4 pouces, je pense que ça donnerait un gain parce qu'il faut quand même conserver à l'esprit que l'écran doit être Retina Display. Donc, sont-tu capables de faire du 4.8 pouces Retina Display? S'ils font un MacBook Pro puis un iMac 27 pouces Retina Display, oui, sûrement. Mais ça reste à voir. Le Wall Street Journal, qui est une source qui habituellement, en fait, c'est disons une rumeur mieux confirmée.
Ce qui est souvent, ce qui est étonnant dans cet article-là, c'est que, premièrement, ils ne parlent pas de rumeurs. Deuxièmement, ils parlent au présent. Donc, ils ne parlent pas vraiment... ils disent pas, Apple aurait commandé des écrans. C'est Apple a commandé des écrans d'au moins 4 pouces pour possiblement des iPhones. C'est pas une rumeur, puis c'est des sources fiables. Puis, comme tu as dit, Wall Street Journal, ils présentent souvent... Ils ne présentent pas des rumeurs qui sont non fondées. Donc, ils ont peut-être fait une petite recherche, puis ça a été... c'était possible, puis c'est vrai que c'est possible, parce que ça fait un méchant bout de temps que c'est à 3,5 pouces, donc un petit changement comme ça. Le seul problème que je vois, c'est la résolution, qu'est-ce que ça va être, puis les développeurs, il va falloir qu'on change toutes les applications pour supporter ça aussi. C'est tous des petits changements.
Ben, c'est comme les développeurs sont en train de faire avec la 10.7.4 ou Mountain Lion, ils ont doublé l'affichage.
Ils ont doublé, en fait, la résolution.
La résolution des icônes dans les deux systèmes. On est passé de je ne sais plus quelle grandeur à quelle grandeur. Ben. Mais on remarque vraiment que, comme moi ici, l'Automator, j'ai vérifié la différence. Et oui, il y a une différence entre l'icône de l'ancienne version et de la nouvelle. Fait que ça prévoit
ça peut-être... Ça fait longtemps que le système OS X a une technologie qui s'appelle Resolution Independent ou Independency.
Ouais.
C'est-à-dire que le système est fait de manière à pouvoir fonctionner sur à peu près n'importe quelle résolution d'écran, même des écrans 4K, mais que les icônes vont bien apparaître. Les icônes d'Apple, depuis un certain temps, étaient en 512 pixels. Je ne sais pas s'ils les ont augmentés à 1024, c'est ça que tu dis?
Ouais, c'est ça. Ils les ont augmentés à 1024.
OK, quand même. Et puis, oui, effectivement, là, c'est comme. C'est un wallpaper d'il y a une couple d'années. Là,
ouais, 2020. Faut dire aussi que, mettons, si tu augmentes. Moi, je dis ça de même, je sais pas trop. Si, mettons, tu augmentes la résolution d'une icône, est-ce que ça va être plus lent à la faire afficher?
Non. Ça sera pas plus lent. Puis, au niveau. Il y a certaines personnes qui s'inquiétaient disant que pour l'iPad, le nouveau, la résolution, c'est la résolution Retina Display. Puis les images qui sont là-dedans pour le Retina Display, ils prennent plus de place, évidemment. Mais ce sera pas énorme. Là. C'est pas une grosse différence parce qu'une image là, de cette grandeur-là, au niveau de la photographie, le monde travaille par des... avec des photos de 4000 par 4000. Tu sais, quand tu prends une photo de genre 14 mégapixels, là, c'est comme ça. Puis ça, c'est une photo qui va peser peut-être 4 mégs. Donc, une image, une icône qui en ce moment est 512 pixels par 512 pixels, ça prend rien. Donc, même si on double le nombre d'images, l'application, elle ne va pas doubler. Là, c'est parce que dans le système, il y a besoin beaucoup plus que ces images-là. Donc, on va voir. Là.
L'autre nouvelle, c'était à propos des écrans Retina Display sur les prochains iMac et MacBook Pro. Mm-hmm. Ma question à moi, c'est si on se fie à la batterie qui a augmenté de, c'est 45% du iPhone ou iPhone 4S pour rouler, puis pas tout à fait bien, là, mais pour rouler cet écran-là Retina Display, qu'est-ce que Apple va pouvoir faire, considérant que les rumeurs qu'on entend, c'est diminution, miniaturisation en fait du MacBook Pro. C'est ce qu'on entend en ce moment. Là. Il devrait être plus mince, plus petit. Et même en se débarrassant du lecteur CD qu'il y a à l'intérieur de l'appareil, est-ce qu'on va être capable de doubler ou d'augmenter d'à peu près d'au moins 50% la batterie pour pouvoir feeder l'écran Retina Display. Sur un iMac, c'est peut-être moins une problématique parce qu'il est alimenté en électricité.
Oui, mais c'est ça. Mais sur le MacBook Pro aussi, ça va être, comme tu dis, ça va être vraiment, on va voir vraiment qu'améliore, mais de beaucoup aussi la batterie. Parce que, en tout cas, moi, la batterie que j'ai présentement, puisque moi, vu que c'est le dernier modèle que je possède, elle dure environ 5-6 heures.
OK.
Je pense que
ça va être un peu comme le iPad. C'est-à-dire que la durée de la batterie au niveau de l'utilisation, ça va être la même chose. La batterie va être plus grande, va pouvoir contenir plus d'électricité, si je peux dire. Par contre, ça va prendre plus de temps à recharger au complet, comme l'iPad le fait. Parce que la batterie, je veux dire, pour supporter un écran comme ça, la batterie est plus grosse, mais plus ils ont augmenté son efficacité. Puis, elle est un petit peu plus grosse. Donc, l'iPad est un petit peu plus gros, mais à peine. Tu sais. Puis, elle pèse un petit peu plus. Donc, je pense que ça va être au niveau de ces caractéristiques-là qui vont changer pour le MacBook Pro, pour le MacBook Air. Mais à ce niveau-là, justement, si le lecteur il quitte dans la machine, là, la carte mère, la mémoire, puis le disque dur, ça va rester là. Puis, dans le fond, l'espace supplémentaire, ça va être au niveau de la batterie.
Mais moi aussi, faut dire aussi que, mettons, ils changent l'écran, OK?
Ouais.
Ils mettent un écran Retina. Combien va coûter l'écran Retina à fabriquer?
Ben, ce qu'on a vu sur les rapports cette semaine, c'est une centaine de dollars de plus. Donc, il y aurait une augmentation de chacun des modèles. Puis peut-être qu'Apple, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un appareil Retina et un appareil qui n'est pas Retina. Quelqu'un qui travaille en son, là, qui a besoin d'une machine performante, va peut-être aller chercher un MacBook Pro, mais l'écran Retina, il s'en tape, là, sérieusement.
Ah ouais. Donc, ouais, c'est sûr.
C'est pas le genre d'Apple de couper justement ces appareils comme ça. Parce qu'on voit pas de... Là, on voit les vieux iPhones qui sont vendus aussi, mais on voit pas de iPhone 4S Retina puis d'iPhone 4S pas Retina.
On a par contre les MacBook Pro avec un écran MA HD dans le 17 pouces et qui sont une cinquantaine de dollars de plus. Donc, mais, ça pourrait être en option.
Tu sais, ils pourraient... Tu sais aussi, je veux dire, peut-être qu'ils vont, ils vont changer. Ils vont peut-être... Ils mettront peut-être plus le Super Drive dans les prochains MacBook Pro, là.
Non, ça c'est sûr, mais je suis pas sûr qu'ils peuvent aller chercher 50% ou 75% d'espace de batterie de plus grâce à ça.
Non, je parle pas de la batterie, là. Je parle, mettons, s'ils enlèvent le Super Drive, là, qui est dedans, ils vont pouvoir économiser sur l'écran, mettre l'écran Retina, puis ça changera pas le prix, là.
Ah non, mais un lecteur CD, c'est 10$, là. C'est pas la même valeur, là, tu sais. Puis l'idée d'enlever le lecteur CD est probablement de pouvoir de pouvoir permettre l'installation d'un deuxième disque dur, ce qui serait plus conséquent, en fait, de faire le même setup qu'on a tous dans nos ordinateurs.
Ouais.
Ouais. Puis en plus, l'écran là, dans les MacBook Pro, avec l'âge, là, puis là, ça fait pas très longtemps, mais avec l'âge, les prix sur ces écrans-là diminuent un peu. Donc, dans le futur, nouveaux produits, c'est sûr qu'il y a des items qui vont coûter un peu plus cher à Apple à acheter au départ, mais je veux dire, ça va diminuer de prix. Puis, si ça coûte 100$ de plus, mais je veux dire, il y a des ententes qui sont signées en arrière de ça. S'ils commandent des millions d'écrans, là, ça va peut-être coûter un petit peu moins cher que 100$ de plus sur tous les écrans. Hein, ou, tu sais, c'est vraiment au niveau d'ententes de compagnies comme ça.
Faut voir. Ben, en fait, les dernières rumeurs qu'on entend au niveau du lancement de ces ordinateurs-là seraient autour du mois de juin. Moi, je pensais que ça allait sortir. J'ai comme l'impression qu'ils vont être lancés quelque chose comme une semaine avant le WWDC. Là,
ouais, je pense que oui, moi aussi.
Cette semaine, il y a eu une mise à jour au niveau de Mountain Lion. Pour ceux qui sont développeurs, la DP3 qui a été mise à jour avec un téléchargement de 1.6 gig. Est-ce qu'on a eu la release note là-dessus, Jeff? Est-ce qu'on a vu qu'est-ce qui améliorait ou c'était juste des bugs?
C'est juste des bugs, okay. Parce que j'ai rien trouvé encore.
OK.
J'ai rien trouvé de nouveau en tant que tel. Alors, c'est juste des bugs parce qu'on se souvient que le Developer Preview 3, première mise à jour, parce que là, c'est la deuxième qu'on a cette semaine, avait certains bugs avec le module iCloud et le module de notification que moi, j'avais ici. Okay. Ça corrige une couple de problèmes. Ouais, il a exposé. Oui, exposé. Ils ont amélioré le exposé dans cette nouvelle version-là que je n'ai pas encore essayé. Je ne l'ai pas activé.
Mission Control, tu veux dire?
C'est quand ça fait fou les écrans, ouais. Là, c'est ça. Fait qu'ils ont rapproché ça avec Exposé. Je l'ai pas activé encore, faut que je le fasse parce que là, je vais faire partir comme sans application en même temps avec mon SSD tellement que ça roule. Là. C'est comme. Okay. Fait que c'est ça. Fait qu'on a eu une petite mise à jour qui s'est faite hier dans l'après-midi. Fait que.
Excellent.
Mais d'après moi, ça va sortir en juin.
Pour le Mountain Lion. Oui, ouais. Tu trouves que c'est assez stable, toi?
Ben moi, avec la avec ce qu'on a eu hier, tu sais, il commence, tu sais, parce que là, à un moment donné, c'est bien beau améliorer des affaires, mais le système est tout le temps pareil, hein. C'est tout le temps le même système, là, à part Game Center, Notification Center, c'est toutes des applications, là, fait que...
Ouais, il y a des trucs de changer en arrière-plan, par exemple.
Oui, il y a une couple d'affaires de changer, mais d'après moi, il va sortir en juin, là, fait que... Parce que là, en plus, aujourd'hui, on a eu la nouvelle version serveur de Mountain Lion, que j'ai pas été chercher encore. Il faut que j'y aille en fin de semaine. Là. Fait que je vais essayer ça aussi. Là. Fait que, mais bon.
Sinon, Vincent, tu nous as sorti un test complet de l'application courrier. Est-ce que c'est sorti déjà? C'est sur le site?
Oui,
ça,
exactement.
Ça a été mis là quand?
Ça a été mis là hier.
OK.
J'ai reçu l'application, le code par la compagnie. C'est la même compagnie, je pense que c'est Real Mac Software ou quelque chose comme ça.
Voilà.
Puis bon, c'est la même compagnie qui fait Rapid Weaver. L'application courrier. En fait, c'est une application de partage de photos, vidéos, puis même de documents via FTP. Mais ce qui est plus facile, c'est par exemple, vous voulez poster une photo sur Facebook ou sur différents médias sociaux, vous faites une enveloppe. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre Tumblr, puis mettre Facebook sur la même enveloppe. Donc, à chaque fois que vous allez glisser une photo sur cette enveloppe-là, la photo va être partagée sur les deux réseaux sociaux. Moi, je vois l'utilité sur... Bon, si je donne un exemple, YouTube et Vimeo. Sur Mac Québec, je publie certaines vidéos. D'autres, tout le monde, toute l'équipe peut pousser des vidéos sur le compte de Mac Québec. Puis moi, les dernières vidéos que j'envoie, c'est lourd. Tu sais, c'est un 600-700 meg parce que c'est en HD. Donc, ça prend du temps. Puis ça me tente pas de passer une demi-heure à attendre que le téléchargement se fait sur YouTube, puis ensuite le pousser sur Vimeo aussi, si quelqu'un aime mieux l'interface de Vimeo. Donc, avec ça, ça pourrait être juste une interface, tu le pousses, puis ensuite, ça se transfère sur les deux systèmes. On parle de vidéo, mais on parle de Facebook, qui est plus facile pour aller pousser. Tu fais juste glisser une image dessus, puis la photo se transfère sur soit un compte Facebook d'une personne ou une page, par exemple, Mac Québec. Donc, c'est plein de petites choses.
Je pense que c'est une idée. Transmit, qui est un excellent logiciel de FTP, fonctionne un petit peu comme ça. Mm-hmm. Il y a possibilité de créer des espèces de raccourcis sur le bureau qui sont connectés directement à des sites FTP. Puis quand tu as besoin d'envoyer, tu sais, que tu es en mode production, tu as besoin d'envoyer, ben tu prends ton document ou je sais pas quoi, mm-hmm. tu le pitches sur ce dossier-là. Puis là, il y a une automatisation qui est faite. C'est assez intéressant. Ouais. Le concept de pouvoir envoyer sur plusieurs médias sociaux en même temps aussi, puis de les définir, c'est intéressant pour, par exemple, comme Kim qui fait du managing de communauté. C'est assez le fun.
Moi, je vois l'utilité, j'ai parlé de vidéo, mais pour le côté FTP, tu peux faire une enveloppe FTP. Puis moi, je vois vraiment l'utilité au niveau des podcasts quand je modifie le code, les quatre codes, parce que ce soir, c'est deux podcasts, donc j'ai quatre codes à modifier pour le feed RSS en XML. Moi, je modifie ces codes-là, puis je fais juste les glisser sur cette enveloppe-là. Puis ça va remplacer automatiquement sur le serveur de Mac Québec les quatre feeds. Ça va faire une mise à jour pour les nouveaux feeds. Ce qui est intéressant, moi, ça va faciliter parce que ça me prend un méchant bout de temps à faire tout ça. Je me suis développé pendant qu'il y a quelque chose qui se fait, je fais quelque chose d'autre, mais au final, c'est quand même assez long. Fait que, avec ça, je trouve que c'est très pratique. La seule affaire, je vais en parler, mais vous irez voir en même temps le Mac Québec. C'est deux points quand même importants. Premièrement, la version n'est pas en français encore.
Okay.
J'ai parlé à une personne de justement Real Mac, puis il disait qu'il allait avoir une traduction bientôt.
Excellent.
Puis en fait, Twitter, puis il n'a pas pu me confirmer ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas Twitter dessus, donc c'est un peu plate de pouvoir pas poster de photos.
C'est un scandale. Ouais. C'est carré.
Je pense que c'est la seule affaire que j'ai moins aimé parce que j'aime ça. J'aime Twitter, puis Facebook, je suis pas beaucoup sur Facebook.
Mm-hmm.
Mais bon,
comme nous autres.
On va voir. Là. C'est peut-être au niveau des API qui sont pas encore. Ils sont pas pareils, quoique Twitter sont quand même assez libres au niveau
assez
de ça.
Assez ouverts.
Oui, c'est ça.
C'est ce qui va mettre, c'est ce qui va mettre fin. C'est la dernière nouvelle qu'on avait. Il y en avait quelques-unes d'autres, mais là, le temps nous presse. Donc, on voulait vous rappeler, en fait, que cette semaine, MacQuébec a lancé aussi quelque chose, nous, de notre côté, Patrick. C'est sûr que le spotlight est sur Tag Taxi, mais nous, on a lancé lesmac.com. Et si le nom te rappelle quelque chose, c'est à cause probablement de l'EPAC, le site d'annonces classées. Donc, lesmac. C'est un espèce de twist. C'est un site d'annonces classées gratuite, mais seulement de produits Macintosh. Donc, plutôt que d'avoir à chercher dans un site généraliste comme Craigslist, comme Kijiji ou, par exemple, les packs, ben on a lesmac.com maintenant qui est offert par Mac Québec et qui vous permet, si vous avez des adaptateurs, si vous avez des vieux adaptateurs mini-DisplayPort, pas mini-DisplayPort, mais DVI à ADC. Ça valait 120$. Moi, j'en ai un à mettre en vente, là, 30$ ou quelque chose comme ça. Là, il va être parti.
Justement, j'ai mon AirPort à vendre que je pensais mettre sur les packs, puis je vais le mettre,
Sur les Macs. C'est un quelle génération?
Oui, c'est quelle génération?
Je l'ai acheté l'année passée.
Ouh, c'est peut-être un 450.
Oui.
Je vois pas de...
C'est avant ou après juillet?
Je t'avoue que je me souviens pas bien. Je pense que ça fait un an... Un peu plus d'un an, je l'ai.
Okay. Puis tu vas le mettre à combien?
Oui, c'est ça. Tu vas le mettre à combien?
Je sais pas combien ça vaut sur le marché. J'ai aucune idée.
On va te trouver un prix, tu vas voir.
Oh, ouais,
Envoyez-moi ça, puis je vais poster ça sur les Mac.
Inquiète-toi pas, on va...
Excellent.
Oui, Kim, comme il a dit, on va mettre ça un mandat au dragon, oui. Excellente émission en passant, l'œil du dragon, là. C'est à regarder.
Voilà.
Faut dire aussi sur les Mac qu'on a aussi un Wacom.
Une Wacom, oui, qui a été mis en vente à un excellent prix. C'est une Wacom 12 pouces qui est arrivée il y a quelques jours.
C'est comme... c'est wow quand j'ai eu ça. Ben voyons donc. Fait que, c'est
une tablette graphique.
Oui.
Patrick, tu voulais nous dire quelque chose avant qu'on quitte?
Moi, j'ai adoré la formule. J'ai envie de revenir. Fait que quand on va avoir des...
Des nouveaux features?
Oui, des choses intéressantes à regarder ensemble, à discuter, à tester, à, tu sais, feedback. Moi, je suis... On va garder ça bien ouvert avec les usagers, notre développement.
Vous êtes très réceptif.
Très réceptif.
Ben, d'ailleurs, j'ai rapporté un bug à Patrick aujourd'hui.
Oui, merci.
Moi, je suis à pointe calumet, puis quand j'ai essayé de me taguer, j'ai donné... En fait, il m'a pas trouvé, donc il m'a demandé une adresse. Et quand je lui ai donné l'adresse à pointe calumet, il a planté. Il est sorti de l'application. Je m'y attendais un petit peu, là. Je me disais, bon, ben peut-être qu'il va avoir de la misère à gérer à l'extérieur, vu que c'est vraiment ce que tu appelles la zone 11, donc vraiment l'île de Montréal.
Ouais, ouais.
Voilà. On termine le show tout le temps sur les chapeaux de roue. On n'a jamais assez de temps quand on a des invités. Il va falloir augmenter la durée du show. Jean-François, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets?
On peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979. C'est sur Facebook, Google+. C'est ça. Vincent?
On peut me retrouver sur Twitter à DEVVMiller. Donc, pas W, c'est un 2V que l'ensemble. Puis, sur mon site web, vmiller.ca, si vous avez un projet d'application à développer ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours passer sur mon site web pour me contacter.
Excellent.
Alexis, toi?
Avant de me plugger moi-même, vous pouvez trouver Kim Auclair, qui est la fondatrice de Mac Québec, celle à qui on doit tout, et qui vous pouvez retrouver sur Twitter au @KimAuclair. Voilà, KimAuclair. Je sais pas, je pense qu'elle a gagné le concours Créateur d'avenir? On sait pas.
Je sais pas.
Elle va nous le dire dans le chat. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Actuellement, je suis moins présent parce que j'ai reçu une rafale d'insultes hier. Donc, à la place, je suis sur une autre plateforme qui contient un paquet d'utilisateurs qui est excellente et qui s'appelle Battle.net à cause de Diablo 3 qui est sorti cette semaine. Passer l'acte 1 de ce jeu-là, ça vaut vraiment la peine. C'est un petit bijou, mais l'acte 1, c'est comme un désert aride. C'est difficile de comprendre les changements qu'ils ont fait. Et oui, les textes ont été faits et très, très bientôt, vous allez pouvoir me trouver au alexiscornelier.com. Si vous avez besoin, par exemple, d'un technicien formateur consultant pour les produits Apple et les réseaux sans fil à la maison, c'est ce que je fais dans la vie. Ben là, un peu moins de monde qui m'appelle, mais habituellement, c'est ce que je fais. Donc, voilà. On vous dit à la semaine prochaine et on se retrouve, on fait une pause et on se retrouve pour les amateurs de Mac. Bonsoir.
Je voudrais remercier Patrick Gagné d'être avec nous ce soir. Fait que
yes.
C'était super. Merci.
Hey, ça fait vraiment plaisir, les gars. Puis, effectivement, je veux revenir. Et je lance une invitation à Kim aussi, avec qui j'étais collègue comme blogueur sur les affaires. Bien hâte de te rencontrer en personne. Ça ferait plaisir, un petit cap. Donc, n'hésite pas à me contacter également. Merci, tout le monde. Ciao.
Au revoir.
Bye-bye.
Bye.